Holy calamity, scream insanity, or are you ever gonna be another great fan of me? Break.
Vous écoutez une émission de radio. Ne déconnectez pas votre poste. Bienvenue sur 93.9 FM. Vous écoutez concrètement.
Aujourd'hui, pas d'intro rigolote. On va parler de choses sérieuses. On va dire les termes. Ici, sur concrètement, on défend une idée assez forte. Le fascisme, pas dingue. Les avatars du fascisme, pas dingue non plus. Du coup, l'extrême droite, pas dingue. À l'heure où CNews se trouve être l'un des plus gros appareils médiatiques du pays, à l'heure où le pouvoir se compose d'une droite bourgeoise qui se découvre une petite complaisance avec la haine de l'autre, dire qu'on n'aime pas le fascisme, c'est une hot take. C'est une hot take dans les faits, et non pas dans la manière dont les gens engagent avec. Je m'explique. Prenez n'importe qui dans un meeting de Jordan Bardella, dans une manif de soutien à un flic qui a buté un gosse, dans une vidéo YouTube avec des mecs qui parlent du déclin de l'Occident en faisant semblant d'avoir une voix grave, et ils vous diront tous la même chose. Moi, je suis pas raciste. Et je suis convaincu que, au fond d'eux, ces gens, ils pensent sincèrement ne pas l'être. Peu de gens vont dire ouvertement qu'ils sont fachos. On voit beaucoup de nazis old school sur les réseaux sociaux ces derniers temps, mais faut voir large. Si le RN joue la carte de la dédiabolisation depuis des années, c'est qu'il y a un truc à gagner. Tout le monde pense être cool, tout le monde pense être sympa, tout le monde pense ne pas être raciste. Si on dit tout ça, c'est parce que c'est particulièrement probant chez les jeunes. L'extrême droite appâte des étudiants, des lycéens même, en jouant plutôt sur des notions vagues de patriotisme, de priorité nationale, des trucs pour dire que l'important, c'est d'être français et pas d'être blanc, chrétien, hétéro. Juste par pure coïncidence, tout ce qui ne rentre pas dans le champ de la blancheur du christianisme et de l'hétérosexualité, c'est considéré comme pas super français. Mais bon, on n'a pas besoin de le développer. Donc, on arrive dans une position où soi-disant, personne n'est raciste. Mais tout le monde défend des idées un peu... voilà quoi. La jeunesse ne remet plus en question l'ordre établi. Le conservatisme. Pourquoi est-ce que les jeunes sont fachos ?
À cause de concrètement.
Pardon ?
Les jeunes deviennent fachos à cause de concrètement. Et si c'est pas le cas, eh ben ça devrait l'être.
Mais est-ce que t'écoutes l'émission ? C'est pas toi qui as dit que je suis même le Mao de la radio ?
Non, mais ça, c'est un détail technique. Après, si tu veux pas débattre...
Mais évidemment que je veux pas débattre ! Ça a pas de sens ! Je viens littéralement de dire que le fascisme, c'est pas bien ! Tu veux quoi de plus ? Tu sais quoi, je vais pas mordre à l'hameçon. Pousse, c'est terminé, on arrête la discussion, je reprends. Je disais donc, pourquoi est-ce que les jeunes sont fachos ? À cause d'Internet. Désolé de faire mon boomer, mais c'est vrai. Vous avez déjà entendu parler du pipeline de l'alt-right ? Probablement. Enfin, j'espère, c'est un gros sujet de société quand même. Si c'est pas le cas, rassurez-vous, on va... vous expliquer ça sous une forme un peu short. Si vous voulez en savoir plus, nous, on vous recommande très fortement la vidéo de Innuendo Studio sur le sujet, qui a aussi beaucoup servi pour l'écriture de cet épisode. Mais bon, pour faire simple, en gros, aux États-Unis, dans les années 2010, on observe une délocalisation de l'extrême droite. Les temps changent, Obama est président, et il faut bien s'adapter à Internet à un moment ou un autre. Et cette mutation, elle a pris une forme vraiment particulière. L'extrême droite s'est déstructurée. Du moins, elle est devenue encore plus disparate qu'avant. Une nouvelle droite alternative, on parle d'alt-right. Encore une fois, on simplifie, mais on doit aller vite. Donc, comment attirer les gens dans une position pareille ? Vous vous attendez à ce qu'ils viennent tout seuls. Grâce au système de recommandation des réseaux sociaux, de YouTube notamment. L'idée, c'est qu'on est sur une forme d'auto-radicalisation. Du contenu soft, souvent humoristique, amène petit à petit sur des penseurs et des idées de plus en plus explicites et de plus en plus extrêmes. Le tout en exploitant la nature algorithmique des plateformes. Autant lointain des années 2010, ça commençait souvent avec des vidéos type « Féministe à cheveux bleus se fait démolir dans un débat » où on pouvait voir un mec de 35 piges qui parle très vite à une étudiante en citant des stats erronées et invérifiables sur le moment. Vous regardez ça ? Et YouTube vous recommande du contenu, on va dire soft mascu, avec un peu de développement personnel, et 2-3 trucs sur la drague, et un peu sur le traditionnalisme, et ainsi de suite. Bref, la bonne personne au bon endroit, au bon moment, peut être amenée à souscrire à ces idées de plus en plus extrêmes qui sont mises devant ses yeux. Et là, c'est peut-être le début de la chute. Parce que si vous êtes dans une position compliquée de votre vie, que vous cherchez du sens, vous pouvez potentiellement vous rattacher à tout ce qui confirme vos biais. À partir de ce moment-là, c'est festival. Vous cliquez, vous engagez avec le contenu, on vous en recommande toujours plus. Et dans ce contenu, on vous explique qu'il faut creuser. Donc, vous creusez à votre rythme, toujours plus profond. C'est la même méthode de radicalisation que les groupes néo-nazis. Mais vous êtes encouragé à faire le taf vous-même. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi les masculins projettent sur les femmes des comportements de collégiennes ? C'est pas explicitement pour embrigader des gamins de 13 ans qui sont pas encore politisés, mais plus ces gamins cliquent, plus les vues augmentent, plus les créateurs masculins voient que ce contenu-là, ces idées-là, ça génère de la thune. En somme, toute cette mécanique, c'est la loi de l'offre et de la demande. Et ça crée une chambre d'écho pour ceux qui tombent dedans. Pas ambiance nazisme dans les caves, mais pas cool quand même. Et c'est pas un complot. Personne s'est dit, tiens, on va manipuler Internet pour pervertir le monde. Aujourd'hui, c'est instrumentalisé par les politiciens néo-fascistes, mais au départ, c'est plus cynique que ça. Juste, comme on vient de le dire, des mecs d'extrême droite se sont aperçus que leur contenu et leurs idées généraient plus de traction, plus de thunes aussi, s'ils faisaient leur propre truc de leur côté. Et le modèle marche bien, puisque le succès d'un créateur amène par les recommandations au succès d'un autre, et ainsi de suite. Et puis, une fois les idées établies, pour les victoires politiques, on peut faire avec les différences. À peu près. Quand l'alt-right a tenté formellement de s'unir, ça a fini dans un bain de sang. C'était à Charlottesville, en 2017. Mais, malgré ça, Donald Trump a fait son mandat, et il va probablement être réélu dans quelques mois, et si vous allez sur Twitter, bah vous pouvez constater que l'extrême droite américaine a certes un peu changé, mais qu'elle se porte très bien. Mais du coup, la France, dans tout ça, bah c'est un peu pareil, c'est même très pareil. Vous matez une ou deux vidéos de Napoléon, et quelques mois plus tard, vous vous retrouvez à baver devant une vidéo d'un abruti qui vous explique que la France est en chute libre depuis le temps des conquêtes et des Visigoths, parce que le comble de l'existence, c'était la période où on vivait comme les Croods.
Ouais, doucement le wokisme, là. Y'a aucun mal à vouloir revenir aux traditions.
Mais quelle tradition ? Ne pas savoir lire ? Pisser dans un pot de chambre et le jeter dans la rue ? Non, mais c'est quoi ? Vas-y, explique-moi. Pourquoi est-ce que la France était plus glorieuse à l'époque où on prenait pas de douche ?
La minute de sourire.
Salut à tous mes petits templiers, aujourd'hui on se retrouve pour le top 3 des raisons pour lesquelles la France s'était mise au Moyen-Âge. Numéro 1, la littérature. Ouais, tu peux ranger ton manja ou ton livre d'homme soja au Moyen-Âge, même si on savait pas lire, on avait le droit à des vrais classiques comme la chanson de Roland, le conte du Graal. À cette époque, Perceval, il s'empare de l'armure du chevalier vermeil après lui avoir pété la gueule juste parce qu'il le trouvait un peu trop arrogant. Et le mec en plus, il est récompensé pour avoir cassé gratuitement la bouche à un type, tu te rends compte ? Et ouais, il est pas poursuivi pour bastonnage gratos sur la place du village, avec pour sentence un joli bracelet électronique et un stage de découverte de 2 semaines en prison. Numéro 2, les relations amoureuses. Et ouais, au Moyen-Âge, la France, c'était pas encore le Wokistan, donc y avait aucune chance pour que la meuf que tu kiffes était bourrée aux essais sur les études de genre du type Judith Butler, supplément en licence art du spectacle. En plus, au Moyen-Âge, t'as dû le ciné, c'était... une meuf genre Blanche Fleur ou Astrée, une princesse qui attendrait patiemment ton retour pendant que tu casses du sarrasin, t'as compris ? Ou une bergère qui a jamais entendu parler de l'autre Salomé Saké. Numéro 3, y avait pas d'arabe.
Une petite minute.
Columbo ?
Oui, c'est moi. J'interromps la minute de Sewill parce qu'un petit détail me turlupine. Voyez-vous ? Sewill précise que le Moyen-Âge était respectable, puisqu'il n'y avait pas d'arabe en France à cette époque. Or, il se trouve que Sewill possède un passeport algérien, donc lui-même n'aurait pu exister en France au Moyen-Âge. Ça ne fait pas sens.
Non mais cherchez pas, il est dans un petit mood d'extrême droite aujourd'hui, c'est son truc.
D'accord. Et passez le salam à Enak de ma part.
Bon, en vrai, la France et le pipeline de l'alt-right, c'est un peu plus complexe. Pour deux raisons. La première, c'est que la France a déjà une extrême droite clairement définie dans le cadre de la lutte politique. Ce qui veut dire que tout créateur de contenu qui veut exploiter le pipeline sera plus facilement affilié à un parti. Quand un youtubeur de gauche dit quoi que ce soit, il y a toujours des tonnes de commentaires où des vieux viennent parler de LFI et de Mélenchon, même quand ça n'a rien à voir. Parce que les liens se font vite. On entend une idée de gauche, on pense au parti de gauche le plus présent dans les médias.
Un créateur d'extrême droite ne veut peut-être pas qu'on fasse le lien entre ses idées et le RN, parce que beaucoup sont plus racistes que ça, mais ça arrive tout de même. Il suffit à l'extrême droite de capitaliser sur les idées les plus populaires de ses créateurs, surtout dans le cadre de leur communication numérique parce que ça touche aux jeunes, et là, bah, y a des voix gratos. La deuxième raison, du coup, c'est que notre conception du pipeline est déjà désuète. Parce qu'on n'est pas aux États-Unis déjà, et qu'une extrême droite alternative en France, c'est plus compliqué, il y en a une, peut-être, mais comme on vient de le dire, il y a des liens politiques qui se font très vite. Et surtout, l'idée de pipeline elle-même, c'est un outil de compréhension. Outil d'un temps qui commence à se faire un peu lointain. Les mécaniques principales sont toujours là, oui, mais pour le reste. Une fois qu'on a une première vague de jeunes radicalisés, les choses changent. On se retrouve avec, je sais pas, des syndicats étudiants d'extrême droite, des collectifs, des groupes pour faire des ratonnades, des choses qui ont toujours existé, mais qui sont aujourd'hui de nouveau populaires et surtout peuplées par des gens différents, des gens qui eux-mêmes ont été en partie radicalisés par le pipeline et qui sont en âge de le nourrir. Ça change tout. Du coup, la France fait son propre truc. On va pas détailler, on n'a pas le temps, donc pour faire vite, on va dire que il y a une fachosphère française avec ses propres codes, ses propres appels du pied et qui répond à une culture de l'extrême droite franco-française et à l'histoire de cette mouvance dans le pays. Par exemple, on peut supposer que l'auto-victimisation constante de l'extrême droite est une stratégie de réponse à l'ancien cordon sanitaire dans les médias. Le cordon sanitaire, c'était l'idée que les médias refusaient pendant longtemps de recevoir et d'interroger l'extrême droite, surtout le FN, parce que le nazisme, c'était il n'y a pas si longtemps, et qu'un parti fondé par des collabos et des membres de la division Charlemagne de la Waffen-SS, bah ça la fout un peu mal. Mais bon, pour ça, il y aurait tout un sujet d'épisode entier à faire. Retenez juste que l'extrême droite contemporaine se structure à partir d'une logique d'autoradicalisation, que c'est présent en France, et que ça fait une belle chair à canon pour les partis. Et que ça engendre une nouvelle vague de jeunes d'extrême droite.
Nouvelle vague qu'on devrait mener ! Et on pourrait vaincre nos ennemis, dominer le monde ! Imagine des foules entières qui crient « concrètement ! Concrètement !»
Mais non ! Concrètement, c'est pas une émission fasciste ! Et on va pas tuer des gens pour pouvoir faire de la radio, alors qu'on peut déjà faire de la radio, c'est une dinguerie ! Je sais pas comment tu t'es mis cette idée dans la tête, mais c'est non, point barre.
Et pourquoi pas ? Vas-y, explique-moi !
Mais c'est lunaire, ça saoule, y a pas besoin d'explication, en fait.
Bah voyons ! Les bien-pensants qui refusent de discuter ! On n'a jamais vu ça !
Mais Enek dit quelque chose !
Peut-être qu'il faut écouter Souil.
Quoi ?
Bah, c'est la liberté d'expression. Tout le monde a le droit de parler. On doit tolérer le fascisme de Souil si on tolère bien ton gauchisme, alors que le communisme a tué 10 milliards de milliards de milliards de personnes. Y a littéralement aucune différence entre vous deux.
Mais qui te parle de communisme ?
Si c'est pour crier, je préfère encore écouter Souil. De toute façon, t'es juste jaloux de lui.
Mais, jaloux de quoi ?
Jaloux parce que Souil, il a un projet, alors que toi, t'as même pas de taf.
Oui ! Mais il a quand même tort. Et concrètement, c'est pas une émission fasciste. Et on doit pas tuer des gens, et on doit pas dominer le monde. C'est pas bien.
Bon, c'est un peu réducteur quand même.
Laisse Enak, il a raison. J'avais tort. J'avais juste besoin d'entendre ses arguments. Maintenant, je ne sens plus une once de fascisme dans mon corps. Je savais pas que c'est pas bien d'être méchant. C'est pour ça que je voulais commettre un génocide. Mais maintenant que quelqu'un a débattu avec l'extrême droite, j'ai instantanément changé d'avis. Et je peux me consacrer à des activités productives comme écouter RNG, diffusé un samedi par mois à 20h sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
C'est bon ? Je vais reprendre. Bon. Internet est l'une des raisons pour lesquelles les jeunes sont fachos, d'accord. Internet a détruit le monde, comme on le dit toujours dans Concrètement, mais ça fait pas tout. On l'a déjà évoqué, les créateurs de contenu qui portent la fachosphère ne sont pas nécessairement affiliés à un parti, c'est un lien qui se fait tout seul. Le plus souvent, ils ont autre chose à foutre, ils ont de la maille à amasser. Donc, les jeunes les suivent, ils ont des idées de fachos, ok. Mais comment ça se fait qu'ils jouent autant le jeu des partis ? Est-ce qu'il ne se trouverait pas, comme on l'a suggéré, que les partis prennent avantage des jeunes pour grossir leur rang. Vous voyez où on veut en venir ? L'extrême droite fait un travail de terrain avec les jeunes que les autres mouvances politiques ne font pas. Ce n'est pas le moment de l'épisode où on va blâmer la gauche pour la montée du fascisme en France. Oui, la gauche a sa part à jouer dans le débat, évidemment, mais on lui fait un tel dos pour tout et n'importe quoi en ce moment que j'ai envie d'être intellectuellement malhonnête. Mais bon, il faut mettre les points sur les i. Il faut se dire que les jeunes de gauche, aussi, ils s'instruisent sur Internet, avec le jeu des algorithmes, et ils trouvent difficilement chaussures à leurs pieds dans les partis de gauche et les syndicats étudiants, si tant donné qu'ils ont la volonté d'aller eux-mêmes vers les structures militantes. Parce que même dans ce scénario, ils doivent souvent faire face à une culture activiste si vieille qu'elle semble plus intéressée par sa propre survie que par l'envie profonde de changer le monde. Alors ils se terrent sur Internet, où les modes d'échange sont d'une hostilité sans nom, peu importe les idées qu'on défend, on est tous des victimes des plateformes, et c'est la colère qui crée le plus d'engagement. À l'extrême droite, c'est beaucoup plus simple. T'aimes pas les Arabes ? Il y a deux partis. Zemmour pour les fachos qui s'assument, le RN pour ceux qui s'assument moins et qui veulent gagner des élections. T'as un syndicat étudiant qui reprend tous les codes de la fachosphère qui t'a déjà radicalisé, tout simple et tracé, et en plus, la doxa médiatique est de ton côté. Les gens passent une vie entière à être conditionnés par le capitalisme. La moindre inconvenance les dérange. Le chemin de la simplicité peut détruire les principes de beaucoup, beaucoup de monde, si tant donné qu'ils ont quelques biais racistes. La gauche a une faute politique dans la question. Les partis ont vraiment du mal à faire du pas vers les jeunes. La culture syndicale semble se répondre à elle-même. Et c'est d'autant plus probant que le contexte est favorable à la fascisation des jeunes. Bah là, il y a les classiques en ce moment. Il n'y a pas de taf, donc pas de thunes. Il y a une inflation de fous furieux. Il y a une crise immobilière au tournant. C'est facile de tout foutre sur le dos d'un bouc émissaire. C'est rassurant. La démagogie de l'extrême droite vise à répondre aux problèmes du monde, logique. Mais elle est mise en place dans un contexte où les problèmes des jeunes ne sont pas si différents des problèmes de leurs parents. Du moins, tous ont la même source immédiate, 7 ans de politique néolibérale de la part de Macron. D'autant diront que Manu Max défend une politique économique de droite, pas si différente des autres pans de la droite, et que la connivence du RN avec le pouvoir en place, comme on l'observe à l'Assemblée nationale, le montre très littéralement sous nos yeux. Et c'est absolument vrai, en tout point. Mais l'extrême droite ne fait pas son beurre là-dessus. Bien sûr, au pouvoir, ils ne pourraient jamais régler les problèmes économiques des Français. Mais c'est pas grave, ils ont juste à mentir sur la source du problème pour se faire élire. Ou prétendre qu'ils ne font pas partie du problème. Et ainsi, ils font croire qu'ils sont incroyablement différents du pouvoir en place, ils veulent être vus comme des punks, comme des rebelles. Mais comment vous voulez vendre le conservatisme, le truc le moins rebelle du monde, comme quelque chose de nouveau et de transcendant ? Vous vous reposez sur les jeunes. Les jeunes sont fachos parce que l'extrême droite a besoin d'eux. C'est le jeu de la politique. La jeunesse sert de chair à canon pour les partis, ça a toujours été le cas. Dans une position où le boom démographique du nouveau millénaire est en âge de voter malgré son désintérêt total pour les partis présentés, c'est galère pour tout le monde, sauf pour ceux qui ont un message simple. Surtout quand le contexte médiatique est favorable au conservatisme. Et puis, encore une fois, il y a Internet dans l'eau. C'est du pain béni pour un parti démagogique qui a besoin de redorer son blason. C'est l'étape finale de la dédiabolisation. Une génération qui ne conçoit pas l'extrême droite comme un extrême. Et puis les gens sont racistes. Il faut le dire à un moment ou un autre. Les plateaux télé sont saturés par des petits bourges incultes et racistes, la politique sociale du gouvernement ne va que dans le sens des riches et du racisme, et le deuxième parti de ce pays a été fondé par un amas de collabos et d'anciens nazis dont le seul point commun est le racisme. Voilà ! Tout ce qu'on dit depuis le début de l'émission, c'est pas pour excuser les jeunes qui se tournent vers l'extrême droite. Leur âge rend le pardon plus facile, certes, mais il faut pas oublier que toutes les choses que nous avons citées ne sont que des potentialités. Aucune ne peut se réaliser si les concernés n'ont pas, au strict minimum, quelques biais xénophobes. Et si on se met à parler sources, là, il y a des sujets qui fâchent. Notre pays entretient une culture du tabou. S'il n'y avait pas de tabou sur l'esclavage et le colonialisme, on serait en position pour déceler les mécaniques du racisme en France. S'il n'y avait pas un tabou sur la gestion et l'histoire des forces de l'ordre, on serait à même de stopper son utilisation comme bras armé de l'autoritarisme. S'il n'y avait pas de tabou sur l'occupation, on n'oublierait pas que le RN, on se répète encore une fois, a été fondé par des collabos et des anciens membres de la diffusion Charlemagne de la Waffen-SS. Mais la France oublie tout trop vite. Le monde matérialise son mal-être à travers la montée de l'extrême droite. Et si c'est un produit des temps modernes, il ne faut pas oublier ses sources. Sinon, comment le combattre ? Parce qu'il faut combattre l'extrême droite. Personne ne mérite de souffrir comme bouc émissaire. Personne ne mérite d'être jeté en pâture devant un peuple tout entier parce que ce dernier refuse le moindre inconfort. Et personne ne mérite de voir son existence opprimée sans que personne n'ait la décence de le reconnaître. Tout ça parce que notre pays refuse de voir l'extrême droite pour ce qu'elle est, un avatar du fascisme. Combattre l'extrême droite est un devoir moral, un devoir civique et surtout un devoir de mémoire. Quitte à crever sous le poids de nos erreurs, autant que ce soit pour le réchauffement climatique. Au moins, on pourra pas accuser les jeunes. En attendant que la France réalise que le fascisme est une idiotie, en attendant que le monde médiatique retrouve une once de décence politique, en attendant que la jeunesse emmerde à nouveau le Front National, je vous dis merci de votre écoute, et à la prochaine pour un nouvel épisode. Ouais, ouais, c'est toujours aussi dur de faire un générique, ça a pas changé. Donc, comme toujours, un peu à l'arrache, les blazes, à la réalisation, à l'écriture et à la voix, Noé le prêtre. À l'écriture et à la voix, Enak Doji. À l'écriture et à la voix, Souil Mankouri. Et à la communication, Lisa Texera. Et pour le reste, comme toujours, à la chance ou au catalogue de la SACEM.